Merci beaucoup, Gemma. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je m'appelle Slophie, je suis une outre mangeuse compulsive. Je voudrais dire, comme j'ai une maladie de mon ego qui est complètement surdimensionnée, que je ne souhaitais pas spécialement être enregistrée ce soir, mais je ne m'y oppose pas. Et j'espère que Dieu va me donner les mots pour transmettre son message. J'aime bien prendre quelques secondes avant de parler pour lui dire que je veux bien être son instrument ce soir et j'espère que ce sera lui qui va m'inspirer. Je m'appelle Slophie, je suis une outre mangeuse compulsive, j'ai 55 ans, je fais 1,69 m, je suis maman de 2 grands enfants et j'ai détesté mon corps pendant toute la première partie de ma vie qui a duré jusqu'à 50 ans. Voilà. Je suis un bébé né en 68. Ma maman était infirmière, elle travaillait dans le monde de la santé. Et on recommandait aux mamans à cette époque que si elles avaient peur, et le mot n'est pas innocent, peur, l'un des 4 défauts sur lesquels je vais avoir à travailler pour les lâcher, bien vouloir les lâcher et y renoncer en quatrième étape. Que son bébé refuse le passage du sein au purée d'épinards et de haricots verts, d'alterner les dites purées avec des cuillerées. On peut citer les aliments dans votre réunion? Alors, avec des cuillerées pures de lait concentré sucré. Autrement dit, j'ai même pas 1 an et l'un des premiers messages que mon cerveau reçoit après le lait maternel, c'est « Oh purée, c'est bon ça, tu n'avais encore !» Ça va durer 50 ans, cette histoire. Pourtant, j'ai absolument rien à reprocher à mon enfance. Je n'ai subi aucun trauma ou alors j'en ai aucun souvenir. Mes parents s'aimaient. Aussi imparfaitement qu'on peut s'aimer quand on est en couple, maintenant je le sais. Ils nous aimaient, j'ai un frère de 2 ans de moins, une sœur de 5 ans de moins que moi. On a vécu des expériences formidables, on a été expatriés dans un pays anglophone quand j'étais adolescente, on ne manquait pas d'argent, on ne manquait pas de nourriture, on ne manquait pas de vacances, on n'était pas non plus dans l'opulence. Mon papa avait dit, c'est pas parce qu'on est expatrié qu'on va avoir une piscine, un jardinier et une maid. Et effectivement, on n'avait pas de piscine, on n'avait pas de jardinier, on n'avait pas de maid. Et c'était good enough, très bien comme ça. Donc j'ai rien à leur reprocher, mais... De toute petite, j'ai des comportements zarbi. Par exemple, je me souviens de voler dans les placards des biscuits. Je me souviens que maman, qui voulait absolument aimer tous ses enfants de la même façon, et qui est d'origine italienne, donc l'amour, ça passe par la nourriture, hein, c'est important dans la famille, et je ne jette pas la pierre là-dessus, c'est OK. On adorait la cancoyotte. Elle nous achetait 3 pots de cancoyotte, un pour chacun. Il y avait notre nom dessus. Moi, j'allais bouffer dans le pot de mon frère et ma sœur avant d'entamer le mien. Elle faisait pareil avec le tube de lait concentré. Ma sœur, elle n'aime pas ça, donc c'était mon frère et moi qui nous choutrouillons avec. Et ainsi de suite, avec d'autres substances du même genre. Pâte à tartiner et compagnie. Et puis, j'ai tout de suite des comportements, avant mes 10 ans, hein, des comportements bizarres. Je me ronge les ongles. Je gratte mes boutons jusqu'au sang des dizaines de fois. L'été, je vais, c'est difficile à dire encore, je me pèle la peau sous les pieds. C'est très douloureux, c'est très chiant, on ne peut pas marcher, ça oblige à marcher sur le côté du pied. Pourquoi je faisais ça, je ne sais pas, mais j'observe que toute petite, j'ai des comportements d'autodestruction. Je ne sais pas. Quand je vois mon corps, là, j'ai 10 ans. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai 10 ans. Eh bien, du plus loin que je m'en souvienne, je me trouvais grosse. Aujourd'hui, je regarde cette photo, je me dis, bah, je suis un peu chubby, quoi. J'ai un petit peu, j'ai des bonnes petites joues, mais je ne suis pas grosse, bon sang de bonsoir. Comment est-ce que j'ai pu avoir déjà, aussitôt, la perception tellement dézinguée que je me trouvais grosse sur cette photo? Un peu plus tard, je suis en Afrique du Sud Et j'ai retrouvé une photo de moi en maillot de bain. C'est pas un maillot de bain qui ressemblerait à ce qu'on appellera un bikini aujourd'hui, mais enfin, ça fait rien de particulièrement sexy. C'est un maillot de bain normal. Et au crayon, j'ai refait les contours de ce que je voulais avoir moi comme silhouette. Je dois avoir 12 ans, 13 ans. Et ça va plus avec mon corps. C'est déjà plus mon copain du tout, quoi. J'ai dans la tête des trucs qui résonnent que maman me disait. Par exemple, je me souviens que petite, avant ma puberté, elle voulait me faire opérer des oreilles. Elle trouvait que j'avais les oreilles décollées. Non, mais là, franchement, je les regarde, mes oreilles. Bon, eh ben, elles sont sympas, mes oreilles. Qu'est-ce qu'elles ont, ces oreilles? Pourquoi est-ce qu'elle voulait me faire opérer des oreilles? J'avais aussi les cheveux qui ont beaucoup poussé et à l'adolescence, je l'entends encore me dire, oh, tes cheveux, c'est ton capital beauté, ma fille, ne les coupe jamais. Des cheveux, c'est des poils, en fait. Là, ce qui leur est arrivé, c'est que la dernière fois que j'ai parlé avec ma fille, elle m'a dit, je pense que tu as une tête à avoir des cheveux courts, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, allez, on rase tout, on va essayer. C'est les poils, ça repousse, c'est les cheveux, quoi, voilà. C'était important d'être épilée parce qu'il fallait plaire à son homme. Fallait garder son homme. Pour garder son homme, fallait être belle, fallait être mince. Il y avait un diktat. Ensuite, ils m'ont confié quelque chose de leur vie de couple qui a été vachement importante pour moi. Une réflexion malheureuse, peut-être, que papa avait dite en disant, un jour, maman avait dit, on aura, quand on sera mariés, ils étaient jeunes mariés, je vais te faire plein d'enfants. Il a dit, ah, mais surtout pas pour que tu finisses comme une grosse dondon. Là. Voilà. Le genre de petite phrase mortellement assassine qui dézingue une gamine. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils m'ont confié ça, mais je l'ai entendu. Et puis voilà, ça germe, ça germe, ça germe. Et je prends du poids, je prends du poids, je prends du poids à l'adolescence. Et j'arrive en troisième, et c'est moi qui ai demandé à mes parents de m'inscrire dans un institut, à l'époque on est toujours au Cap en Afrique du Sud, de régime, à base de fruits. Donc j'y vais, ils m'offrent ça pendant une semaine, je suis interne dans cet institut, je bouffe que des fruits et des compléments alimentaires pour pas être carencée pendant une semaine, et je perds mes 2 premiers kilos et demi. Et je me dis, c'est génial, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Et je continue, je rentre chez moi, je fais pareil. Pendant 13 semaines, je vais bouffer que des fruits et faire des gâteaux à tire-larigot pour tout mon entourage. Ils n'ont jamais autant bouffé de gâteaux, ma famille, mes voisins, à l'école, tout le monde a bouffé les gâteaux que je rêvais de bouffer, mais je ne pouvais pas parce que je mangeais des fruits. Et comme ça, j'ai retrouvé un petit carnet dans lequel j'ai noté à l'époque. Je l'ai retourné il y a au mois d'avril dernier dans ma maison. Je fais à l'époque 1 mètre. Où est-ce que j'ai marqué? Je n'ai pas marqué. Mais je ne fais pas 1,69 m comme aujourd'hui. Je dois être à 1,65 m. Je pars de 69 kilos et en mai, j'en fais 55. Je perds 14 kilos. Et c'est le début de l'horreur du yo-yo. Je vais faire ça pendant 35 ans. Pendant 35 ans, je vais combler tous les bazars émotionnels par de la bouffe. Alors, en second, je vais réussir à me maintenir à peu près. Et puis, quand je rentre en première en France, mes parents sont toujours en Afrique du Sud et moi, je suis en internat. Le week-end, je vais chez ma tante, où je retrouve ma cousine qui a le même âge que moi, mais elle porte des Burlington, elle a des copains, elle est habillée comme une bonne petite bourgeoise lyonnaise, et moi je suis rien de tout ça, et je tombe dans une jalousie terrible. Et quand je suis dans la semaine à l'internat, bah, je vais au magasin le plus proche et je me remplis des sacs de merde sucrée, de poison. Et je bouffe, je bouffe, je bouffe, je bouffe. En un an, je reprends tout le poids que j'avais perdu, et après, c'est foutu. Alors, c'est foutu, oui et non, parce qu'il y a quand même eu des moments dans ma vie, parce que comme je fais des régimes, je perds du poids, il y a eu des moments dans ma vie où j'étais mince. Et alors, curieusement, c'est toujours tombé au moment où j'ai rencontré les 3 hommes de ma vie. Quand je les ai rencontrés, j'étais mince. Et après, il y avait cette espèce de malhonnête chantage où je leur disais, bon, enfin, si tu m'aimes, tu m'aimes aussi si je suis grosse. Et blâme, je reprenais encore plus de poids que j'en avais jamais perdu. J'ai fait ça avec le papa de mes enfants, qui ne m'a jamais fait la moindre remarque, ni sur ce que je mangeais, ni sur mon poids. Je l'ai quitté au bout de 18 ans, parce qu'il n'était vraiment pas goody d'un fin. Ah, oh, je méritais beaucoup mieux. Ensuite, j'ai rencontré un autre homme. J'ai fait pareil, j'étais mince quand je l'ai rencontré, et puis j'ai grossi. Et lui aussi, je l'ai quitté, il n'était pas goodenough du tout. Je valais beaucoup mieux que ça, enfin, voyons. Et le troisième que j'ai rencontré, je suis encore avec. Et au début, je lui ai dit, écoute, tu sais, il faut que je te dise, j'ai un problème avec la nourriture, des fois je maigris, des fois je grossis. Il m'a dit, ah, oh, bah, tu as bien fait de m'en parler. Il est irlandais. Hein. Un Irlandais, ça part sans filtre, en tout cas lui. Et il m'a dit, parce que moi, je ne pourrais pas vivre avec une femme grosse. Et il me l'a dit comme ça. Ok, super. Et ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et je suis en train de reprendre du poids. Je suis remontée à 87 et je sais que je vais aller à 90. Et je me dis, tu veux quoi? Tu veux quoi, chérie? Tu veux qu'il te quitte? Il te l'a dit, hein. Il va faire ce qu'il a dit, hein. Tu veux quoi? Ben, j'ai dit, bon, je veux quoi, je veux quoi? Je veux pas qu'il me quitte, merde. Alors. Et là, il y a une espèce de convergence. C'est comme si ma PS, entre-temps, j'ai perdu 2 fois 40 kilos, quand même, ça, je ne vous l'ai pas dit. 2 fois, l'année de mes 37 ans, 37 kilos, et quelques années plus tard avec l'autre homme, la même chose. J'ai fait des jeûnes, la première fois par hasard. Après, je me dis, oh, mais c'est génial, j'ai perdu plein de poids, je vais recommencer. Des jeûnes. Ben, le cinquième jeûne, le cinquième jour du cinquième jeûne, je n'avais même pas perdu 1 kilo. Il n'est pas con, mon corps. Il a une mémoire bien meilleure que la mienne. Il me dit, ah, ça y est, elle recommence ses conneries, c'est bon. J'étais tellement furaxe que j'ai même pas tenu plus de 5 jours. Je me suis remise à bouffer. J'étais incapable de sortir d'un jeûne sans faire des conneries. La première fois où j'ai perdu mes 37 ans, je me suis fait opérer parce que je ne supportais pas de voir tout qui pendait. C'était pas possible, pas possible. J'avais pas fait tout ça pour ça, pas possible, d'accord? Donc je me suis fait faire une plastie abdominale et refait faire des seins qui ressembleraient à des seins qui tiendraient, je veux dire, tu vois, des seins, des trucs qui tiennent, pas des trucs qui pendent. Donc il y a des faux seins à l'intérieur, il y a du silicone, mais comme Et j'ai repris 40 kilos, puis je les ai reperdus derrière. Ben finalement, vous savez quoi aujourd'hui? Ça pend. Voilà. Sauf qu'il y a un truc en silicone dedans qui pend. Donc maintenant, mon obsession, c'est avant de mourir, je veux avoir assez d'argent pour me faire opérer et m'enlever ce bordel. Je me vois en cadavre avec les deux trucs posés sur moi. C'est pas possible. Je veux pas ça. Je veux pas. Faut absolument que je. Dieu m'avait fait bien comme j'étais. Qu'est-ce que j'ai eu besoin d'aller faire autre chose? Bref, on en est là. Et il y a un faisceau, des trucs qui s'accumulent. Deux films où on fait allusion à peine cachée aux alcooliques anonymes. Un reportage que je vois sur le sucre, sur le mécanisme du sucre rapport à mon cerveau, comment ça fonctionne là-haut, le machin de la récompense, tout ça, l'addiction, le machin. Je commence à entendre parler tout ça et à pouvoir l'entendre. Parce que ma mère, elle a essayé avant. Il n'y a jamais eu le moindre truc. Il n'y a toujours eu que des natures yaourt chez nous, petits. Mais moi, je mettais 3 cuillères de sucre dedans. On dit, mais tu ne voudrais pas essayer d'en mettre que deux, peut-être? Non, ben non, 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 elle ne voulait pas. Et puis, si elle voulait, elle le faisait à table. Et puis, derrière, elle a bouffé un demi-paquet de gâteau, quoi, voilà. Ah oui, j'ai volé à l'épicerie aussi. Mais c'était un peu la faute de l'épicier. Elle avait mis tous les bons becs à hauteur de mes mains. Alors, forcément, j'ai volé. Voilà. Et il s'en est rendu compte. Il est venu me voir un jour. Il m'a dit, ah, juste à moi. Il m'a dit, tu sais. Je crois bien que j'ai vu ce que tu fais avec les bonbons. J'aimerais bien que tu te tiennes plutôt éloigné des bonbons quand tu viens à l'épicerie. Oh, la honte que j'ai eue. La honte. J'avais amené tout ce que j'avais dans ma tirelire. Il m'a dit, non, mais tu peux le garder, ton argent. C'est pas grave. Je veux juste que tu changes ton comportement. Ben, en fait, le programme, c'est ça. Je peux rester comme je suis. Mais est-ce que j'ai le courage de changer des choses que je peux changer? C'est-à-dire moi. Alors, comment je rencontre? Je reviens en arrière. Je me dis un jour, ça clique, je me dis, mais si ça existe pour les gens qui boivent, on est en avril 2018, ça se trouve, ça existe pour les gens qui mangent. Ta ta ta, outre-mangeur anonyme. Je dis, c'est vraiment un nom complètement ridicule, mais j'ai rien à perdre, je vais y aller. Et j'y vais. Je fais 6 réunions en 3 mois, je peux pas faire plus à l'époque. Et le 18 juillet 2018, rétroactivement, à la fin du mois de juillet, je me rends compte que je suis abstinente depuis cette date-là. Abstinente de tout produit sucré ou à goût sucré. Je me dis, ben merde alors. J'ai même pas fait d'effort pour ça. Comment c'est possible? En moins de 6 mois, je vais perdre tout le poids santé, tout le poids non santé que j'avais. Ça commence à bien me gratter la tête. Nom de Dieu, c'est nom de Dieu. Ben oui, nom de Dieu, évidemment, nom de Dieu. C'est parce qu'il est là, cette blague. Et à partir de janvier 2019, je rentre dans la stabilité. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. J'ai perdu du poids. Je n'ai jamais réussi à me stabiliser. Et là, ça fait son chemin. Je prends du service. J'ai une clé de la salle. mais je n'ai pas encore bien compris cette histoire. Je veux travailler le programme toute seule. Je suis dans ma volonté déchaînée. Non, mais moi, je n'ai pas besoin d'une marraine. Okay. En fait, il est écrit quelque part une 13e promesse, ou telle que je l'ai définie moi, c'est que si je ne rends pas ce que j'ai reçu, je vais le perdre. C'est écrit. Merci, gardienne du temps, pour ton service. Merci. C'est écrit. Alors, est-ce que je veux le perdre? Alors que ça fait des mois que je suis stable, est-ce que je veux perdre ça? Non, je ne veux pas le perdre. Ah ben, j'ai pas le choix. Faut que je travaille mes étapes et que j'ai le courage de changer. Parce que c'est ça, hein, le courage de changer les choses que je peux. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la seule chose que je peux changer, c'est moi. Accepter les choses que je ne peux changer, eh ben, c'est les autres, comme ils sont. Parce qu'ils sont comme moi, ils sont good enough. Ce sont des enfants de Dieu, tels que Dieu les a faits. Et Dieu ne crée pas de poubelle. Merde, alors je vais pouvoir changer que moi. Ce serait pas mal que je ne sois pas toute seule pour faire ça. Et là, j'ai le courage de demander à quelqu'un d'être ma marraine. J'ai du bol. La première personne à qui je demande, elle dit oui. Et je bosse mes étapes. Il va me falloir 2 ans et demi pour faire mon tour d'étape. Et vous savez quoi? Je ne les ai pas finis. Je n'ai pas fait mes neuvièmes. Je n'ai pas fait mes neuvièmes. Ça ne m'empêche pas d'être marraine jusqu'à la huitième. Je ne dois pas être la super marraine du feu de Dieu, hein, parce que mes filleules, je les amène. J'ai enfin une filleule avec laquelle j'ai attaqué la quatrième. C'est pas mal, d'accord? Mais je fais ce que je peux, c'est pas grave. Il n'y a pas de marrainage parfait. Mais je commence à piger le coup de la douzième. Le service, m'inscrire dans une lignée, main dans la main, Rosanne, tout ça. Je commence à piger aussi, après une belle grosse erreur, à quoi servent les traditions. Je commence à accepter que personne n'est responsable de se renseigner sur les traditions à ma place, que personne ne va faire à ma place ce que je peux faire. Je commence à accepter que je fais ma part et qu'après, le résultat, c'est lui. Mais que si je vais pas, si je ne fais pas ma part, ça va être beaucoup plus compliqué. Je commence à accepter que le mot accepter est plus important que le mot comprendre. Il y a plein de choses que je ne comprends pas dans le programme. Je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que ça marche. Ça fait 60 ans que ça marche. C'est pas grave si je ne comprends pas. Est-ce que je peux accepter que quand j'entends quelque chose, une suggestion de ma marraine, quand j'entends un appel au service, est-ce que je peux accepter qu'il m'ait suggéré de dire oui? Est-ce que je peux accepter la notion entre égoïsme éclairé et égoïsme volonté déchaînée? Est-ce que je peux accepter de tendre la main et le cœur de la fraternité à l'outre-mangeur qui souffre encore quand lui me le demande? Pas quand moi j'ai un trou dans mon emploi du temps et que ça me fait plaisir. Est-ce que je peux accepter tous ces trucs inconfortables qui font que l'un dans l'autre, je me sens vachement utile et je ne suis plus du tout préoccupée par mon corps. Non seulement je ne suis plus préoccupée par mon corps, mais il m'arrive de passer devant une glace et me dire « Purée, mais ça me va bien ce truc aujourd'hui, t'es mimi toi !» Et ça m'arrive. Je porte des robes. Mes jambes, elles ne sont pas plus… C'est toujours pas Claudia Schiffer, hein. Ah oui, parce que les mannequins à l'époque, ça a aussi beaucoup joué dans mon image. On est à l'époque où il n'y a pas encore Photoshop et c'est les premiers mannequins. Elles sont absolument sublimes, ces filles. Moi, je veux être Laetitia Casta. Alors, regardez comme j'ai réussi. Ah, hein? Voilà. Mais je suis ma Laetitia Casta à moi, en fait. Mes varices que j'avais, ben, je les ai toujours, mais elles ont arrêté de se répandre. Enfin, je veux dire, mon corps n'est plus mon ennemi. Voilà. J'ai fait la paix avec mon corps. Des fois même, je lui dis merci. Je lui dis, t'inquiète, je vais te débarrasser des deux machins. T'inquiète, c'est qu'une question de temps. On va y arriver. On y arrivera. Ça aussi, ça passera. Mais j'ai pigé que le programme, c'est un programme d'amour et je l'ai accepté. Accepté. Inconditionnellement. J'arrive maintenant à m'accepter et même à m'aimer telle que je suis. Et oui, je fais plus que mon âge. Et des fois, on me donne 60 balais. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Si vous saviez par où je l'ai fait passer, mon corps. C'est merveilleux qu'il soit encore là. Ma PS même. Vous ici. Il y en a qui me voient pour la première fois. Je le ressens, votre amour. J'en ai presque des larmes aux yeux. D'accord? C'est OK. Mais j'ai besoin de donner ce que j'ai reçu, sinon je vais le perdre. Et voilà, je voudrais vous remercier de m'avoir demander de partager mon expérience, ma force et mon espoir. J'espère que chacun et chacune de vous, et moi y comprise, nous trouvons un jour à la fois ce que nous venons chercher dans ce programme. Je m'abstiens un jour à la fois. Je me rétablis un jour à la fois. Je suis nouveau chaque jour que Dieu fait, le matin au réveil. Et chaque jour que Dieu fait, et je vais m'arrêter avec ça, je dis, mon Dieu, je te remercie parce que je suis en vie. Je te remercie parce que je suis abstinente. Je te remercie parce que je suis membre des OA. Et quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Tous les matins, je lui pose la question. Merci de m'avoir écouté et je vais vous écouter.